Il ne nous reste plus qu'à extraire pour vous de la Gazette des Tribunaux, où elles ont été publiées à leur date, des échantillons variés de ce qui s'y jugeait. En voici donc une première série. Maintenant, huissier, appelez les causes.
Affaire suivante. La grenouille à queue. Silence ! Silence !
Il faut qu'un animal ait une queue ou qu'il n'en ait pas. Ainsi l'a décidé dans sa sagesse le créateur de toutes choses, à part, bien entendu, la maxime que la sagesse de M. de la Palisse ou de M. Prudhomme eût suffi à proclamer. Madame veuve Miraille, qui, comme toutes les veuves âgées, comble sur ses vieux jours le vide laissé par le défunt avec la société d'animaux domestiques, ne peut pas venir à bout d'avoir des animaux avec ou sans queue. Ces explications vont faire comprendre ce qu'on ne comprendrait pas sans cela. Elle a cité sa concierge en police correctionnelle pour mutilation d'animaux domestiques.
« Figurez-vous, messieurs,
dit-elle,
que c'est une horreur des abominations que cette femme-là. Voyez-vous, faut que ça n'ait pas plus de sensibilité qu'un rhinocéros sauvage. »
La prévenue.
« On me laisse traiter comme la plus vile des turpitudes. Et que ça n'est pas vrai, messieurs, ce que dit cette dame. »«
Vous vous expliquerez tout à l'heure. »
La prévenue.
« C'est tout expliqué. C'est pas moi. »«
Voulez-vous vous taire ?»«
Messieurs, j'avais un chien. Joli. » Que c'était l'admiration de tout le monde. Qu'il y a même un Anglais ou un Espagnol, je ne sais pas au juste. Seulement, je sais qu'il a comme un accent gascon. Eh bien, messieurs, il m'en a offert 120 francs. Une queue. Ah, si vous aviez vu, un panache.
Arrivez au fait.
Eh bien, messieurs, la pauvre bête qui avait l'habitude de descendre dans la cour revient. Ah, messieurs, plus de queue, coupée net, rasibus. Et il saignait, la pauvre bête. Ça m'a fait tant de peine que, ne pouvant plus le voir en face, je m'en suis défaite. Alors, voilà qu'on me donne un angora. Ah, un manchon, un bonnet à poils, et une queue.
Voyons, abrégeons. On a encore coupé la queue à votre chat?
Comme à mon chien, au rat, on ne lui a pas laissé ce qui me tiendrait dans l'œil.
Mais est-ce que ça me regarde tout ça? Est-ce que c'est moi?
Le président à la plaignante.
C'est tout.
Pour les queues coupées, oui. Mais vous allez voir plus fort. Je me dis, puisque je ne peux pas conserver des animaux avec leur queue, je vais m'en procurer un sans queue. Je suis sûre qu'on ne la lui coupera pas. Ne pouvant plus voir mon chat en face sans sa queue, je lui donne la volée. Et j'achète une grosse grenouille verte dans un bocal. Je me dis, celle-là, on ne lui coupera pas la queue. Un jour, en rentrant, j'ouvre ma fenêtre, je vais voir ma grenouille pour savoir le temps qu'il fera le lendemain, vu que chacun sait que quand la grenouille monte, c'est que...
Bien, bien, terminé.
Eh bien, monsieur, je la vois sur le dos, dans le fond de l'eau, qui battait ses petits flancs. Je regarde ce qu'elle pouvait avoir. Et qu'est-ce que je vois ? Une grande queue en plume qu'on lui avait plantée, si bien que ça lui avait perforé le tempérament.
Enfin, vous imputez toujours ces méchancetés à votre concierge ?
Monsieur, elle s'en est vantée.
À qui ? Où sont les témoins ?
Oui, où sont-ils les témoins ?
Vous les avez dépravés en leur payant du café et des cerises à l'eau-de-vie, quand vous avez su que je voulais vous traîner sur les bancs de la magistrature. Alors, ils disent qu'ils ne savent rien, mais je lève la main qu'ils me l'ont dit. même que pour la grenouille, ils ont raconté, comme je demeure au premier sur le derrière, que vous aviez monté jusqu'à ma fenêtre avec une échelle pour la martyriser, la pauvre bête, en y mettant une queue dont elle est morte.
Enfin, madame, vous n'avez pas de témoin ? Votre concierge nie le fait ?
Une vengeance, monsieur, parce que madame a l'habitude que les locataires aillent lui souhaiter sa fête et lui porter des lichonneries, et moi pas, qui garde mon camp à soi.
Tout cela est bien possible, mais encore une fois, nous ne pouvons pas condamner sans preuve.
Dans ces circonstances, la concierge a été renvoyée des fins de la plainte.
Affaire suivante.
La queue de la chemise. Que la mère qui n'aurait pas agi comme la veuve Bourdon lui jette la première pierre. Mais soyez sûr que cette pierre, c'est au chien du boucher Rouillard qu'elle aurait jeté, comme l'a justement fait la veuve Bourdon. Rouillard a vengé son chien, et le voilà en police correctionnelle pour quelques coups de pied envoyés à cette brave dame, là où s'envoie ce genre de coup, généralement plus humiliant que dangereux. Disons tout, la bonne mère, n'ayant pas obtenu avec l'envoi d'une pierre ce qu'elle attendait du chien, s'est mise à taper dessus avec une véritable rage. De là, les représailles dont elle se plaint. Cet animal était un de ces petits doguins comme en ont les bouchers, terribles comme il le faut, ne lâchant pas le morceau qu'ils tiennent dans leur mâchoire de fer, comme nous allons le voir tout à l'heure, mais ne perdant pas le privilège de la jeunesse, la gaieté. Or, Turban, c'est son nom, ne voulait que jouer, c'est hors de doute. La veuve Bourdon n'en croit rien. Elle a vu son fils en danger, malgré les rires fous de la galerie, et voilà comment, de fil en aiguille, l'affaire a fini par un procès.
Dites dans quelles circonstances, madame, le prévenu vous a frappé.
Ha ! Qu'il a bien tout ce qu'il faut pour faire un boucher.
Bien, bien. Expliquez-vous sans commentaire.
Eh bien, monsieur, voilà. Je passais avec mon petit garçon, dont il avait un gâteau dans chaque main, un croissant de l'une et une brioche de l'autre. Je ne sais pas pourquoi on rit, ça n'est pourtant pas si risible.
Voyons, abrégeons. Le chien du prévenu a voulu manger les gâteaux de votre enfant, sans doute.
Oh, c'est pas ça du tout. Voilà. Mon petit avait la queue de sa chemise qui sortait de sa petite culotte par derrière. Encore ?
Continuez donc, madame.
Alors, monsieur, qui est bien tout ce qu'il faut pour être bouché, venez derrière nous avec son chien. Tout à coup, voilà mon petit qui jette des cris comme si on le déchiquetait en morceaux. Je regarde, et qu'est-ce que je vois ? Le chien de monsieur qui avait attrapé la queue de la chemise de mon enfant. Et il tirait en arrière, et mon petit garçon tirait en avant pour se sauver. Plus il tirait de son côté, plus le chien tirait du sien, en faisant « gnon, gnon, gnon ». Mon enfant jetait des cris que tout le monde était aux portes et aux fenêtres et qu'il se faisait un rassemblement. Je jette une pierre au chien. Il n'y fait même pas attention et il tirait toujours en grognant. Et, messieurs, tous ces gens-là, au lieu de délivrer un pauvre innocent, riaient à se tordre. Jusqu'à monsieur, qui pouvait faire lâcher son chien d'un mot et qui riait comme un veau. Alors, voyant ça, j'envoie des coups de pied au chien. Pensez, j'étais comme une furie. Tout à coup, monsieur, je reçois des coups de pied au derrière. C'était cette horreur d'homme qui n'a ni cœur paternel, ni galanterie.
C'est entendu. Allez vous asseoir, madame.
Un seul mot, monsieur. Il n'y a pas eu moyen de faire lâcher le chien. C'est un militaire qui se trouvait là, qui a coupé la queue de la chemise avec son sabre. C'est comme ça que mon enfant a été délivré du monstre de chien de monsieur, qui a bien tout ce qu'il faut pour être un boucher.
Le prévenu reconnaît les faits en principe.
On n'a pas idée d'une femme aussi bête que ça. Un chien de 7 mois, c'est jeune, ça joue. Il voit une queue de chemise, il l'attrape pour jouer. Et madame voyait bien que tout le monde riait et que mon chien jouait, c'te bête. C'est de son âge, et elle se met à le massacrer de coups de pied.
Il fallait appeler votre chien et ne pas frapper cette femme.
Oh, frapper, des coups de pied dans les jupons.
Ah, vous croyez que je ne les ai pas sentis?
Si on vous disait de faire voir les traces.
Voilà les procédés de monsieur. Après avoir battu les gens, il se moque d'eux.
Le tribunal a condamné le prévenu à 3 jours de prison.
Affaire suivante, le pantalon caméléon.
Est-il exact qu'un nom ridicule puisse paralyser la carrière de l'artiste ou de l'écrivain le mieux doué? Soulier, sans R, il est vrai, est là pour prouver le contraire, et au besoin, d'ailleurs, quand on a le malheur de s'appeler Jacquot et d'être homme de lettres, on prend un pseudonyme. C'est ainsi que Jacquot est devenu Eugène de Mirecourt. À plus forte raison, quand on a reçu de son père le nom de Bibi, devrait-on ou renoncer aux arts ou renoncer au nom? Pourquoi Bibi n'a-t-il pas pris une de ces deux résolutions? C'est ce que nous ne saurions expliquer. Toujours est-il qu'il attribue sa misère à cette particularité déplorable et que l'infortuné musicien en est arrivé à n'avoir plus de pantalon. Or, comme il est impossible de se présenter chez des élèves sans ce vêtement, l'une des plus belles conquêtes de la civilisation, l'infortuné virtuose a eu la faiblesse d'en enlever un chez un marchand d'habits, et il comparaît devant la police correctionnelle, pantalonné tout à neuf par l'administration. Il avoue très franchement la soustraction qui lui est reprochée.
Figurez-vous, messieurs, que j'étais dans une position très embarrassante. J'ai quelques leçons de piano. Eh bien, tout cela peut me faire une 20aine de francs par mois. J'ai un nom qui me fait beaucoup de tort, messieurs. Si quelqu'un s'occupe de moi, naturellement, on demande mon nom. Quand on dit que je m'appelle Bibi, les personnes se tordent de rire et ne veulent pas de moi. Si bien qu'avec 20 francs par mois, il n'y a pas moyen de se tirer d'affaire. Enfin, j'avais un malheureux pantalon qui avait d'abord été beurre frais. Au bout de 2 mois, il était encore beurre, mais il n'était plus frais du tout. Je n'avais pas le moyen d'en acheter un autre. Alors, je le fais teindre en chamois, et ça me pousse encore quelque temps. Mais le voilà de nouveau immétable. Toujours pas le sou pour le remplacer. Voyant ça, je le fais teindre en verre-bouteille. C'était faux teint. Il pleut, j'attrape toute l'averse, et le soir, en me couchant, je m'aperçus que j'avais l'air d'une grenouille. Alors, je fais teindre mon pantalon en bleu indigo. Le teinturier me dit « Je crois que vous ferez bien de vous en tenir là, car je doute qu'il supporte une 4e teinture. » Ce brave homme croyait peut-être que c'était par caprice que je faisais passer mon pantalon par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « Je vous prie de croire, lui dis-je, que j'en aimerais mieux un neuf. » Enfin, je le ménage bien et en voilà encore pour 3 semaines. Mais les coutures blanchissaient. Mon pantalon ne se faisait pas jeune. Chez mes élèves, on commençait à me regarder d'un air de pitié. Si bien que je dis au teinturier « Essayons-en encore une. Mettez-le-moi en noir. » Il me le teint en noir tout en me disant qu'il n'en répondait pas. En effet, le noir brûle. 4 jours après, en me baissant pour ramasser un rouleau de musique que j'avais laissé tomber, mon pantalon craque au milieu de la rue. Heureusement, les pans de ma jaquette cachaient l'accident. Mais j'étais très embarrassé. Il m'était impossible de me présenter chez mes élèves, car, vraiment, je montre la musique. mais je ne sais pas trop ce que j'aurais montré. Alors, messieurs, le désespoir m'a pris. J'ai perdu la tête et, passant devant une boutique de marchands d'habits, j'ai eu la mauvaise pensée. Ma main tremblait. Je n'avais jamais rien volé à qui que ce fût. Voilà la vérité, messieurs. Faites de moi ce que vous voudrez.
Et l'auditoire, que la transformation du pantalon avait mis en belle humeur, ne riait plus à cette péroraison du malheureux artiste. Le tribunal, usant d'une extrême indulgence, ne l'a condamné qu'à 8 jours de prison. Aussitôt après le prononcé du jugement, une brave femme s'avance et remet au pauvre Bibi le montant d'une collecte provoquée par elle et qui sera plus que suffisante pour lui payer un bon pantalon, à cette époque où le besoin commence à s'en faire sentir.
Affaire suivante. La pensionnaire de la sage-femme.
Malgré les révolutions démocratiques, le prestige de la couronne n'est pas encore près de s'évanouir. Couronne royale, impériale, ducale, voire même la couronne de rosière, exerce toujours une influence irrésistible. Comment s'étonnerait-on dès lors qu'une simple sage-femme l'ait subie ? Quand nous aurons dit que cette sage-femme, Madame Toupillot, reproche à Mademoiselle Angeline Pochonnet, qui fut sa pensionnaire, de la lui avoir fait à la couronne, il sera inutile d'ajouter que ce n'est pas de la couronne de rosière qu'il s'agit. Cette jeune personne avait aperçu entre 2 fenêtres d'un entresol un tableau représentant une dame occupée à ramasser des petits enfants blotti sous des choux. Au-dessous du sujet étaient écrits ces mots. Madame Toupillot, sage-femme de première classe, prend des pensionnaires. Mademoiselle Pochonnet, qui avait un chou à bébé, et cherchait justement un établissement du genre de celui exposé à ses regards, monte chez Madame Toupillot, lui expose son cas, et en convient que, quand le chou sera mûr, la lucine de l'entresol facilitera à Madame ou à Mademoiselle Pochonnet son entrée dans le monde. De plus, lui procurera une nourrice, convention écrite en double sous les seins respectifs d'usage. C'est à un jeune homme que la sage-femme a ouvert la porte des générations futures. La mère et l'enfant se portent bien. Quant à Madame Toupillot, elle se porte plaignante en escroquerie. Et c'est ici que nous allons voir l'influence de la couronne.
« Messieurs, »
dit la sage-femme,
« voilà la chose. Mademoiselle a vu mon enseigne où je suis représentée du temps de la Révolution de février. Elle monte et me dit « Madame Toupillot, « combien que vous me prendrez pour 15 jours tout compris ?» Je lui réponds « Madame, c'est 100 francs tout compris, payé d'avance, et je me charge d'avoir la nourrice. » Les 100 francs qu'elle me riposte, je ne marchande pas. Mais pour d'avance, je marchande, vu que le père, qui est un prince turc très riche et qui veut garder l'anonyme en ne venant pas ici, donnera des millions et des milliards pour son enfant, dont voici ses lettres avec la couronne. En effet, elle me montre des lettres avec une couronne en tête. Mais que j'ai su depuis que c'était la marque du fabricant de papier. Si bien que le prince turc ne voulant pas payer d'avance, et moi, croyant ça en confiance, je reçois mademoiselle dans mon meilleur lit, qui me boit du Bordeaux à faire trembler, et qui me mange du rôti, qui m'emprunte de l'argent et même du linge, pendant 6 semaines.
Le président.
Je croyais que vous aviez traité pour 15 jours.
Oui, monsieur, mais j'ai continué à auberger et à dorloter mademoiselle, par rapport au prince turc. Tant ça, si ça avait été pour un père ordinaire.
Mais, naturellement, c'est comme la différence d'avoir affaire au bon Dieu ou à Saint-Crépin. Qu'il y en a une fameuse.
Enfin, comment tout cela a-t-il fini?
Ça a fini qu'un jour, mademoiselle a joué la fille de l'air et que je ne l'ai plus trouvée en rentrant. Et qu'ayant répondu à la nourrice de ses mois, qui répond P, et que le petit, je ne lui en fais pas un crime, mais il tète d'une voracité, comme si c'était l'argent de sa mère ou de son père. Pensez, à cet âge-là, on a bon appétit, et il vient comme une volupté, le pauvre petit malheureux, qui se croit le fils d'un prince turc, et que c'est peut-être un ferblantier illégitime, et même pas tant.
Le président a la prévenue.
Qu'avez-vous à répondre?
Si c'était à madame, je ne lui ferais seulement pas l'honneur de lui répondre. Mais le tribunal, j'ai du respect pour lui. Madame a une enseigne. Elle prend des pensionnaires. Elle m'a prise. Je lui dois son dû. Je ne le nie pas. Ce qu'elle m'a demandé, elle peut dire que je n'ai pas marchandé.
C'était bien inutile si vous ne voulez pas payer.
Ça n'est pas de vouloir que ça me manque. C'est de pouvoir.
Soit. Mais... vous avez montré à la plaignante des lettres portant, disiez-vous, la couronne d'un prince père de votre enfant. Et c'était un timbre de fabrique.
Les voilà, les lettres. On peut les voir. Mais pour ce qui est du prince, madame a rêvé ça. Vous voyez si c'est possible de croire que c'est un prince qui a écrit ça.
Lisant une lettre.
Ma chère Léline, je n'ai pas le sou pour le moment. Mais je pense que d'ici à quelque temps, le bâtiment va reprendre et que j'en aurai. La sage-femme te fera bien crédit. D'ailleurs, reste-y jusqu'à ce que j'aurai de l'argent. Dimanche, je t'enverrai du saucisson par le petit Bréchot.
Si vous m'aviez montré ça, j'aurais bien vu que c'était pas un prince turc qui attend que le bâtiment reprenne et qui envoie du saucisson par le petit Bréchot.
Je vous l'ai montré.
Le président à la plaignante.
Vous n'avez donc pas lu la lettre, hein?
Du tout. C'est mademoiselle qui me l'a lue. Je m'en suis rapporté à elle. Je n'ai vu que la couronne.
Faut convenir, madame Toupillot, que pour une femme d'âge, je ne sais pas où vous avez pêché ça. Monsieur le président, vous comprenez que dans ma position, fallait bien en sortir, n'est-ce pas? Je ne nie rien, je suis prête à faire un billet à madame.
Oui, endossé par le prince turc.
Le tribunal a jugé que les manœuvres frauduleuses n'étaient pas suffisamment établies, et il a renvoyé la prévenue des fins de la plainte.
Affaire suivante. L'élève tendeur de chien. L'élève tendeur de chien.
Adopté par la veuve Fondant, qui tond les chiens, calme les chats et va en ville, Léon Merlard mène de front ses classes et son apprentissage de tondeur de chien, trop jeune encore pour être initié à la deuxième partie de la profession. Son fort, par exemple, c'est d'aller en ville. Il y va même tant qu'il met à peine le pied à l'école. C'est comme cela qu'il a déjà été arrêté 5 fois pour vagabondage. La 5e fois, on l'a renvoyé devant la police correctionnelle.
Le président.
Pourquoi avoir quitté cette femme qui vous a adopté?
Tiens, elle me fiche des gifles, merci.
C'est que probablement vous le méritez.
Tiens, je vais à l'école, dont je suis toujours le premier au moins. Et encore que je suis dans les grands. Et puis, le soir, Mme Fondant peut me faire tondre des chiens pour m'amuser. Alors moi, quelquefois, je les coupe sans le faire exprès. Ils me mordent. Zut, c'est pas amusant.
Cette femme vous a recueilli. Vous devez lui obéir.
Mais monsieur, il y a le maître qui me donne des leçons à apprendre. Mme Fondant, alors, si elle me fait tondre des chiens au lieu de mes leçons, moi, on me fiche en retenue, on me colle au piquet, et on me donne des lignes à faire. Ça ne m'arrange pas.
Vous parlez de votre école, de vos leçons? Ouais, il paraît que vous n'y allez guère à votre école. Vous allez courir, vagabonder, et je crois que vous n'apprenez guère de leçons à la halle ou dans les rues.
Oh, je suis toujours le premier. La grammaire, la géographie, le calcul. Combien il y a de sortes de lettres? 2. Les voyelles et les consonnes. Combien il y a de fleuves en France? Il y en a 5. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanique. Quel est le premier roi de France? C'est Pharaon. 2 et 2 font 4, 4 et 4 font 8.
Voyons, voyons. Vous n'êtes pas ici pour réciter vos leçons.
8 et 8 font 24, et 24 font 36.
Voulez-vous bien vous taire ?
Ah, je ne sais pas mes leçons. Vous dites que je ne vais pas à l'école. Même que, si vous voulez, je ferais venir mes camarades ici.
Enfin, quand on vous a arrêté, il y avait plusieurs jours que vous n'étiez pas rentré. Que faisiez-vous à la halle ?
C'est Bourroche qui m'avait emmené. Alors, nous avons bu une chopine avec une bouteille d'eau de sexe.
Le tribunal a envoyé l'élève Léon pendant 2 ans dans une maison de correction.
Affaire suivante. Le mendiant en voiture.
Tout le monde connaît un cab. Cette voiture dont le supérieur, qui est à l'intérieur, voit la partie postérieure de l'inférieur qui est à l'extérieur. Cet inférieur était le cocher, le sueur. Le supérieur était un voyageur, le sieur, pasteur, phraseur et beau parleur, comme on le verra tout à l'heure. Laissez souffler le chroniqueur. Comme les boursiers, agents de change et brasseurs d'affaires, qui, toujours pressés, font leurs courses en voiture, Pasteur, simple mendiant à domicile, a lui aussi pensé qu'il aurait bénéfice à se faire conduire au grand trot dans toutes les maisons où il allait solliciter des secours. Son calcul s'était-il réalisé avant le jour où il a été arrêté ? C'est ce qu'il est difficile de savoir. Mais il est certain que ce jour-là, les recettes n'ont pas répondu à son attente, puisque son cocher, las de le trimballer dans tout Paris, l'a remis entre les mains de sergent de ville, après lui avoir vainement réclamé le prix de 5 heures de course. Voici donc Pasteur en police correctionnelle, sous prévention d'escroquerie et de mendicité. Le président.
Vous avez inauguré la mendicité en voiture, accompagné d'une femme. Vous vous êtes fait conduire dans tous les coins de Paris, à diverses adresses que vous aviez sans doute relevées dans le bottin, et dont on a saisi une liste sur vous, ainsi que plusieurs lettres contenant des demandes de secours. Qu'avez-vous à dire ?
Le prévenu, tirant de sa poche un manuscrit qu'il déploie et commençant à lire
« Magistrat, victime des pouvoirs déchus, je viens du haut de cette tribune... »
Qu'est-ce que c'est que cela ? D'abord, vous n'êtes pas à une tribune, vous êtes au banc des prévenus.
Étant devant le tribunal, je croyais que naturellement, c'était une tribune que...
Et puis, je vous engage à serrer ce papier et à vous expliquer verbalement.
Je n'éprouve aucun embarras à obtempérer à l'invitation de Monsieur le Président. Le maniement de la langue m'est familier, m'étant occupé longtemps de littérature, ayant travaillé aux ouvrages les plus célèbres.
Vous êtes un homme de lettres ?
Pas par moi-même, mais j'ai travaillé à ces ouvrages comme typographe.
Peu importe. Il s'agit du délit de mendicité. Reconnaissez-vous le fait ?
Je vais répondre.
Lisant dans son chapeau le manuscrit qu'il y a placé.
Longtemps jouait d'un destin inconstant, ballotté sur cette mer de la vie comme un vaisseau sur l'océan.
Ah ça ! Vous recommencez vos divagations ? Si vous ne voulez pas répondre catégoriquement, je vais vous retirer la parole.
J'ai bu tout le vase d'amertume de la destinée. Cette nouvelle rigueur...
Ce n'est point une rigueur, c'est un usage commun auquel vous devez vous soumettre. Répondez. Vous alliez en voiture accompagné de votre concubine.
Je n'accepte pas ce mot humiliant pour cette personne. Ce n'est pas ma concubine.
Vous en êtes convenu.
Je ne me suis pas servi de ce mot. J'ai dit que c'était ma compagne chérie, une amie dont le courage augmente le mien. Sa vertu soutient la mienne.
Ne porte-le donc pas de vertu. Vous avez été condamné 8 fois pour vagabondage, filouterie, mendicité.
J'ai eu l'avantage de vous dire que je suis une victime des pouvoirs déchus.
Je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais je sais que vous êtes un mendiant incorrigible.
Cette opinion sur mon compte vient d'agents bonapartistes. Condamnez-moi, l'histoire jugera.
En attendant le jugement de l'histoire, celui du tribunal a condamné à 1 an de prison la victime des pouvoirs déchus.
Oui, oui, monsieur le président.
Affaire suivante. La chasse au lapin.
Pourquoi, à propos d'un fait reprochable, nié par son auteur, cette locution proverbiale employée ironiquement « ce n'est pas toi, c'est le chat » Et en tout cas, pourquoi plutôt le chat que le chien? D'autant plus que cette vieille plaisanterie s'appliquant généralement à un petit vol par gourmandise, le chat, dont les goûts sont restreints, a moins d'occasion de satisfaire son défaut que le chien qui mange de tout, même les souris et même le chat à l'occasion. Ainsi, dans une affaire correctionnelle jugée aujourd'hui, c'est précisément un chien qui a happé un lapin. Que si on voulait répéter cette autre vieille plaisanterie du lapin qui a commencé, on aurait fait de l'esprit en pure perte, car on aurait dit une chose au moins vraisemblable, le chien étant un griffon deux fois moins gros que le lapin. Mais alors, objectera-t-on, c'est l'action du chien qui n'est pas vraisemblable. Et on fera difficilement à croire qu'avec sa petite taille, notre roquet s'est attaqué à un animal qui n'est pas renommé pour sa valeur. Disons tout, le lapin était mort et accroché à un étalage de marchands de gibier. Seulement, à une hauteur telle que ce qu'on met sur le compte du toutou n'est pas plus vraisemblable que le reste. C'est justement là le procès, car Madame Bouvet, la maîtresse du griffon, est prévenue du vol du lapin en question. La marchande de volailles raconte l'affaire en deux mots.
À 7 heures du soir, cette vieille dame a enlevé un lapin à mon étalage et a filé avec. Je l'ai poursuivie et rejointe à 10 mètres de ma boutique, ayant encore le lapin à la main. Je le lui ai arraché.
Le président l'a prévenu.
Qu'avez-vous à dire?
J'ai à dire, monsieur, que ce n'est pas moi qui ai pris le lapin. C'est mon chien.
Qui l'a pris à l'étalage?
Mais certainement, monsieur. Je l'aperçois tout à coup devant moi, qui traînait quelque chose, 3 fois plus gros que lui, et qui avait l'air si fier. Il faisait nion, nion, nion. Alors, je lui retire de la gueule ce qu'il traînait, et je m'écrie « Ah, un lapin! Où l'a-t-il trouvé ?» Et il était là devant moi, me regardant, en manière de dire « Donne-le-moi !» Et il remuait sa petite queue, tenez, comme ça.
Elle mime avec sa main le mouvement de la queue.
Oh, le tribunal sait bien comment un chien remue la queue.
Ah, elle est forte, celle-là. Mon lapin était accroché à au moins 1,50 m de haut, et le chien de cette dame pourrait se mettre dans la poche.
Il n'en est plus que leste.
Il est évident qu'un chien de cette taille n'a pu sauter à une pareille hauteur.
Pourquoi donc, monsieur? Nous avons eu Auriol, qui était tout petit, et qui sautait par-dessus 12 militaires, ayant la baïonnette au fusil.
Votre chien n'est pas un clown.
Non, monsieur, c'est un griffon.
Ça serait un chien de chasse. Je n'irai pas à l'encontre qu'il ait sauté sur le lapin. Mais un petit griffon, que ça mange du sucre et des petites pâtées.
Justement, qu'il est très gueulard des pâtées au lapin. Et que je ne lui en fais pas souvent, vu que moi, le lapin, est un substantif qui me dérange comme une purge. Dont ça n'est pas pour vous envoler.
Cette excellente défense a été récompensée de 15 jours de prison. Souhaitons à la prisonnière qu'on la nourrisse au lapin. Du moins, elle aura le ventre libre. Ce sera toujours cela.
Affaire suivante, le pot-au-feu dans l'escalier.
C'est une erreur que de prétendre qu'il y a 3 genres en latin et 2 seulement en français. Nous en avons également 3, le genre masculin, le genre féminin et le genre concierge. Lequel consiste à être fort grossier pour les locataires, ce qui est très mauvais genre. De là, une véritable guerre déclarée par Galipot à Madame Roussillon, sa concierge, et c'est sur sa plainte en coups et blessures de cette préposée au cordon qu'il comparaît en police correctionnelle.
« Messieurs, »
dit Madame Roussillon,
« Monsieur Galipot a fait assigner en témoignage tous les locataires, que c'est tous des faux témoins. »«
Oh, si vous commencez comme cela, vous avez quelque chance pour que le tribunal ne vous entende pas. »«
J'ai été concierge chez une grande dame étrangère, madame la comtesse de Mouchetongosse. J'aurais pu la faire assigner. Elle vous aurait dit...
Eh bien, il fallait la citer. Mais de quoi vous plaignez-vous?
Je me plains, monsieur, que si vous aviez vu ma physionomie, que c'est guéri aujourd'hui, du coup de cassot de marmite que j'ai reçu de monsieur, que j'en ai eu le nez en écharpe et un cataplasme sur l'œil pendant 8 jours.
Vous, ça ne se voit plus. Mais moi, ça se voit encore, d'un autre cassot de marmite sur le front, qu'il m'en est venu comme une espèce de clou considérable, qu'on aurait dit une patère. J'aurais pu y accrocher mon chapeau.
Le président à la plaignante.
Combien de temps avez-vous été malade?
8 jours.
Oh, et vous avez été à la noce 4 jours après.
Est-ce vrai?
Certainement, monsieur, que j'y ai été. Mais avec mon nez en écharpe et mon cataplasme, et que même à la mairie, à l'église, chez le restaurant, et jusqu'au cocher de fiacre, que j'ai été l'objet d'une dérision générale. Le bedeau s'en tenait le ventre à force de rire, ce que j'ai trouvé très déplacé dans une église.
Il ne fallait pas aller à la noce.
Monsieur, j'y suis été parce que c'était un devoir de ma part.
Et un gueuleton.
Oh, ma filleule? Une jeunesse que j'ai tenue sur les fonds, et que je lui ai donné mon nom, d'Athénaïs. Il ne fallait pas que j'aille à son mariage.
Le président au prévenu.
Qu'avez-vous à dire?
J'ai à dire d'abord que cette femme est une créature
qui... Ah, ça, mais Dieu me pardonne. Il m'appelle créature.
Taisez-vous.
Une créature vindicative et malfaisante.
Je méprise ça, comme le bout de mes souliers.
Il n'y a pas l'appareil dans les 20 arrondissements, ni même la banlieue. Tout cela est venu d'abord de mes cheminées qui fument.
Vous fumez bien, vous? Que c'en est une infection dans les escaliers? Que ça en fait tousser mon chien?
Voulez-vous vous taire?
C'est le bec de gaz qui file et qui infecte l'escalier. Alors je me suis plaint au propriétaire, il a flanqué un suif à la portière.
Concierge, vous écorcherez la bouche? Mal appris.
C'est intolérable. Je vais vous faire sortir.
Vu qu'il avait déjà dit à la concierge...
C'est pas dommage.
À la portière, de faire venir le fumiste et le lampiste et qu'elle n'en avait rien fait pour la chose de me déplaire personnellement. C'est de là qu'elle m'a pris en grippe et qu'à partir de ce jour-là, elle s'est inventée de faire son pot-au-feu au bas de l'escalier, que c'était une abomination d'odeur de graillon, que si je sais ce qu'elle met dedans, je veux être débaptisé.
Oh, toujours ce qu'il y a de mieux, un morceau de culotte.
De la culotte de votre mari alors? Je dis plusieurs fois à la portière...
Portière.
Mame Roussillon, je vous préviens que si votre ratatouille est sur la marche de l'escalier, quand je passerai, vous verrez, je ne vous dis que ça.
Voyons, finissons-en, vous avez frappé cette femme.
Oh, ça n'est pas venu comme ça, vu que ce que j'en disais, c'était simplement pour qu'elle nous dépoisonne de ses popotes. C'est venu de ce qu'un soir, qu'on ne voyait pas très clair, je vins me taper les pieds dans quelque chose. Je me rattrape à la rampe, pour ne pas tomber, je regarde, c'était la marmite. Alors la colère me prend. J'allonge un grand coup de botte, la marmite se casse en morceaux. Voilà une rivière de bouillon qui coule. La culotte, les carottes, les navets, les poireaux, toute la fristouille qui nageait là-dedans, comme les petits bateaux qui vont sur l'eau.
Mais les coups, arrivez-y donc.
C'est elle qui a commencé. Elle ramasse les cassots, elle me les jette à la tête. Elle m'envoie une carotte en plein dans la figure, si bien que moi, j'en fais autant et que, dans la colère, je l'ai attrapée avec un cassot un peu gros.
Et la viande, dont vous ne parlez pas, que le chien de monsieur, une bête horrible, a profité de l'infamie de son maître pour m'emporter mon morceau de culotte. J'en avais pour 48 sous. Qu'on peut bien dire que le maître et le chien qui se ressemblent s'assemblent.
Les locataires, cités comme témoins, ayant confirmé les dires de Galipot et déclaré notamment... qu'il avait reçu le premier un coup de tesson de marmite de la concierge, le tribunal l'a renvoyé des fins de la plainte.
Vous êtes triompheur, mais, comme disent d'autres, tôt ou tard, on reçoit la récompense de son châtiment.
Et après lui avoir mis cela dans la main, Madame Roussillon sort, récoltant le même succès qu'à la noce de sa filleule.
Affaire suivante. Un rhume de cerveau.
Le souhait adressé aux enrhumés du cerveau n'est pas une gracieuseté de civilisation moderne. L'Antiquité a connu le mot aimable à propos d'éternuement. Les Romains disaient « Salve ». Nous disons « Dieu vous bénisse ». La bonne intention est la même, il n'y a de changer que la formule. Cet appel à la bénédiction divine a-t-il quelque effet?
Sans être libre penseur, on peut croire que Dieu a bien autre chose à faire que de se préoccuper des gens à qui ça chatouille dans le nez. Et de fait, il n'a pas empêché l'enrhumé du cerveau que voici de passer en police correctionnelle. Reste à savoir, il est vrai, si le souhait a été formé, et même si notre homme est réellement affligé du coryza qu'il invoque comme explication du vol, apparent selon lui, qu'on lui reproche. Il a fait le mouchoir d'un vieux monsieur appelé à la barre, et qui va nous raconter la chose.
J'étais arrêté dans une foule qui entourait un chanteur à l'orgue, et j'écoutais attentivement une chanson qui me plaisait beaucoup, afin d'en retenir l'air et de pouvoir la chanter au dessert quand je dîne chez des amis, ce qui fait que je ne pensais pas du tout aux personnes qui m'environnaient. V'là qu'à un moment, je sens comme un petit tiraillement de ma poche de derrière. Je crois que c'est quelqu'un qui s'approche pour entendre mieux, et je ne bouge pas, afin de ne pas perdre mon air de vue. Finalement, le sachant par cœur, je veux faire un nœud à mon mouchoir pour m'en rappeler. Je vas pour le tirer de ma poche, et je trouve une main qui le tenait. Je crie « Au voleur !» Un agent qui écoutait chanter écarte la foule, le musicien arrête son orgue, le sergent de ville arrête mon voleur.
« Eh bien, Planquin, vous entendez ?»«
Monsieur !»«
Vous avez entendu ?»«
Oh, comme un ange. Mais je vais vous dire, cet homme âgé fait... Il eut... Excusez, s'il vous plaît. Dire que je ne fais qu'éternuer depuis 4 jours. » Qu'on n'a jamais vu le pareil rhume de cerveau.
Que voulez-vous dire du témoin ?
Je disais qu'il fait illusion.
Vous voulez dire qu'il fait erreur ?
Je veux dire qu'il y a illusion de sa part.
Démontrez-nous cela.
M'étant lavé les pieds la veille...
Quel rapport cela a-t-il ?
Pardonnerez, vu que ça m'avait fichu, hein. Ah, oh, il ne me lâchera pas. Un rhume de cerveau. Alors, ayant oublié mon mouchoir, vous comprenez, il n'y a rien de gênant comme d'avoir le nez qui vous coule comme une borne fontaine, et d'avoir oublié son mouchoir, n'étant pas de ces personnes mal élevées qui ont l'habitude de ne pas s'en servir, comme il est notoire dans le bas peuple qu'on a cette habitude malpropre et insociable, dont je ne suis pas de ceux-là, Dieu merci.
Oui, et vous avez pris le mouchoir du témoin.
Pas pour le voler. Pour me moucher simplement, dont je l'aurai remis après.
Le tribunal appréciera. Asseyez-vous.
Le tribunal délibère.
Tous les jours, ces choses-là arrivent, et on n'arrête pas le monde pour ça. Un monsieur oublie son mouchoir, il se mouche dans celui d'un autre, et il lui rend. Ça se fait partout. On n'est pas un voleur pour... pour ça. On est enrhumé. Voilà tout.
Malheureusement pour Planquin. Il a déjà été condamné 4 fois pour vol à la tire, d'où la 5e à 3 mois de prison pour le vol du mouchoir.
Ça m'apprendra à me laver les pieds. C'est bien fait.
Affaire suivante. Un chicot obstiné.
Il faut n'avoir plus la tête à soi. Et en effet, Grossel prétend qu'il n'a plus la tête à lui. Pour faire la réponse à Drem que voici...
« Avez-vous des antécédents judiciaires ?»
Grossel tenant son mouchoir sur la joue.
« Mais non, monsieur, puisque quand on m'a arrêté, je n'avais rien sur le corps, et que les effets que j'ai là, on me les a donnés à la prison. »
Mouvement de surprise dans l'auditoire, qui semble se demander ce que le prévenu entend par « antécédents judiciaires ».
« Je vous demande si vous avez déjà été condamné. »«
Mais non, monsieur, puisque je ne suis pas encore jugé. Qu'on me condamne si on veut, pourvu qu'on m'arrache ma dent. Oh, ça me tire !»
Le substitut. « Le somme judiciaire est muet. »«
Vous êtes prévenu de vagabondage. »«
J'ai demandé à la prison du chloroforme pour mettre dessus avec un peu de coton. On m'a dit qu'on n'en avait pas. »«
Je vous dis que vous êtes prévenu de vagabondage. » On vous a trouvé couché sur un four à plâtre.
Il y faisait pourtant chaud, en bien. Ça ne m'a rien fait du tout. Je ne ferme pas l'œil. Oh, ça m'élance.
Vous convenez que vous êtes sans domicile et sans ressources.
Le prévenu a un garde municipal.
Vous n'auriez pas un peu de tabac à fumer à me prêter pour mettre sur ma dent.
Répondez donc à ma question. Vous êtes sans domicile et sans ressources.
Un domicile, c'est pas la peine. Je ne peux pas tenir en place depuis 15 jours. Faut que je cours, que j'aille, que je vienne. Oh, 25 chiens, ça me fait y mal.
Vous ne travaillez pas?
Comment voulez-vous que je travaille avec ça? J'ai mis dessus de l'eau de vie, du poivre, de l'oignon, du fromage de Roquefort, de la moutarde, du radis noir. Ça n'y fait rien. V'là 15 jours que je crie comme une andouille de melun.
Enfin, comment vivez-vous donc? Quand on vous arrêtait, vous n'aviez pas un sou.
Pardier, si j'avais de l'argent, je me ferais arracher ma dent.
Je vous pose de nouveau la question. Comment vivez-vous?
Mais je ne vis pas. Comment voulez-vous que je mange avec ça? Il y avait un de mes amis qui m'avait indiqué un de ses parents, un ancien dentiste retiré qui n'arrache plus de dents que pour son plaisir. J'ai été pour le voir. Il venait de partir en voyage. Je ne sais plus ce que je fais. J'ai plus la tête à moi. Je cours comme un cheval ou je tourne comme un tonton. Qu'on me condamne si on veut. Quand on souffre comme moi, on se fiche pas mal d'être en prison.
Le tribunal condamne le prévenu à 1 mois de prison.
Amenez cet homme.
Grosselle aux gardes.
Vous n'avez pas seulement la valeur d'une chique?
Il sort en causant avec le garde.
L'audience est levée.
D'honneur de voix ayant participé à ce projet collectif, Milady, Cocotte, Bernard, Florent, Richard Keller et Le Moco. Avec l'aimable participation de Chantal Hélène et Jean Aubian. Conseils et soutien technique, Christine Sétrin.